les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h, les rendez-vous de l'économie du territoire.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les rendez-vous de l'économie du territoire. Pour cette nouvelle semaine, nous avons rendez-vous cette semaine avec Bruno Burguin, qui est le directeur du CIBC de la Nièvre. Bonjour Bruno.
Bonjour à vous toutes et à vous tous.
Merci d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Alors, vous dirigez le CIBC de la Nièvre, c'est-à-dire le Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences, c'est bien ça ?
C'est exact. C'est une vieille histoire entre le CIBC et la Nièvre depuis 1991.
C'est entre le CIBC ou entre Bruno Burguin, directeur du CIBC et la Nièvre ?
Alors, avec Bruno Burguin, c'est un petit peu plus récent. J'ai débuté au CIBC de la Nièvre en tant que consultant et j'en suis devenu, dès la fin 2017, début 2018, le directeur.
D'accord. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs quelles sont les missions et le fonctionnement du CIBC ?
Alors, les missions du CIBC sont très, très simples. Nous accompagnons toute personne dans la construction de son projet professionnel. Pour cela, eh bien, nous pouvons accueillir des demandeurs d'emploi dans le cadre de marchés que nous avons avec France Travail, notamment sur Active Projet. Nous intervenons aussi sur le point relais conseil VAE où nous pouvons conseiller les personnes sur la sécurisation de leur parcours professionnel. Mais nous pouvons aussi recevoir, et c'est une grande partie de nos visiteurs au CIBC, puisque nous recevons presque 700 personnes à l'année, les salariés. Les salariés dans le cadre du bilan de compétences mobilisable par le CPF, mais aussi le conseil en évolution professionnelle, car nous avons le mandat de France Compétences pour exercer ce service dans le département de la Nièvre. Et puis, nous sommes en relation aussi et de façon très étroite avec les entreprises dans le cadre de prestations de formation ou de conseils RH de type assistance au recrutement. Et puis, nous faisons aussi des formations sur la cohésion d'équipe, le management. Et nous avons des clients dans la Nièvre, aussi bien des collectivités territoriales que des entreprises du secteur privé.
Donc on voit des missions quand même relativement différentes et un certain nombre de missions finalement assez vastes, à destination à la fois des demandeurs d'emploi, des salariés, mais au service des entreprises aussi, si je peux me permettre.
Au service des entreprises aussi, puisque nous avons réalisé des formations dans le domaine de l'industrie, dans des secteurs de l'industrie dans la Nièvre, dans des unités de production. Nous intervenons sur, par exemple, les risques psychosociaux. Nous faisons des formations, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, sur la cohésion d'équipe, le management. Plutôt un bon flux sur l'assistance au recrutement, c'est-à-dire que des entreprises ou des structures, collectivités territoriales, donc nous confient non pas le sourcing des personnes, mais quand ils ont établi le peloton de tête des personnes qui ont été choisies, ils demandent au CIBC de les éclairer sur le choix de ce recrutement.
Sur la shortlist.
La shortlist,
c'est ça. C'est comme ça qu'on dit. Donc on a vu pour cette partie mission, pour nos auditeurs qui sont basés non pas dans la Nièvre mais dans le Cher et dans l'Allier, est-ce que vous pourriez nous rappeler justement comment sont organisés au niveau national et régional les CIBC ? Parce qu'en fait, le CIBC, on en trouve un petit peu partout en France.
Alors, le CIBC dans la Nièvre n'est pas l'unique CIBC de France et de Navarre, puisque nous appartenons à une grande fédération nationale des CIBC dont le siège est à Vichy. Les CIBC sont présents dans la plupart des départements français, aussi DOM-TOM, les territoires d'outre-mer. Nous avons aussi une fédération régionale, donc des CIBC Bourgogne-Franche-Comté, pour mener des actions communes, répondre à des marchés régionaux, nationaux. Et donc la fédération des CIBC donc organise un grand séminaire. Je fais un peu de de publicité, grand séminaire au cours du mois d'avril pour montrer un petit peu toutes les activités, tous les projets que cette association, cette fédération peut mener pour aider les salariés, les demandeurs d'emploi, être au contact aussi avec les territoires, c'est très important pour nous la proximité, mais aussi dialoguer avec les institutionnels, donc une fédération forte, donc éclairée avec une académie CIBC où les gens sont formés et on a véritablement des experts au service des autres.
D'accord. Alors, vous disiez tout à l'heure que ce sont plus de 700 personnes qui sont accueillies et accompagnées par le CIBC de la Nièvre. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette équipe qui accompagne ces demandeurs d'emploi et ces salariés ?
Alors, l'équipe qui compose, qui est opérationnelle, je dirais, dont au CIBC de la Nièvre, 7 rue de Rémini, je le rappelle. Nous intervenons aussi à Clamecy, Château-Chinon, Cosne-sur-Loire et puis de 6. Cette équipe est composée de 7 personnes. Toutes sont diplômées dans le champ de l'insertion professionnelle du domaine RH. Elles accompagnent les personnes aussi bien sur les bilans de compétences, naturellement sur les prestations que nous confie France Travail, notamment Actif Projet pour les demandeurs d'emploi. Accompagnent les salariés aussi sur le conseil en évolution professionnelle, service gratuit sous mandat de France Compétences. Donc on a des personnes, des consultants, des conseillers, des conseillères formés, aguerris, et c'est aussi intéressant de préciser que elles conseillent, elles accompagnent, ils ou elles accompagnent les salariés, les demandeurs d'emploi, mais elles-mêmes ont fait une reconversion professionnelle. Elles ont des profils avec des ruptures professionnelles, des formations en termes de reconversion professionnelle. Donc, ils ou elles connaissent ce que c'est que changer de métier à un moment donné dans sa carrière pour des raisons X ou Y, personnelles, professionnelles, mais l'envie de changer, elles l'ont déjà fait.
Elles ont dû expérimenter cela, exactement. Et c'est important pour pouvoir accompagner au mieux ceux qui connaissent cette période.
C'est bien d'être passé un petit peu sur scène avant de passer dans les coulisses.
Alors, j'aimerais justement pour nos auditeurs qu'on développe un petit peu deux choses pour permettre de mieux comprendre. D'abord, le bilan de compétences. À quel moment il faut s'interroger sur l'opportunité justement d'aller vers un bilan de compétences, qu'on soit salarié ou qu'on soit demandeur d'emploi d'ailleurs.
C'est une très bonne question. On a tendance à vouloir faire un bilan de compétences quand la cabane va vous tomber sur la figure ou quand il y a le feu à la cave. Donc on peut faire un bilan de compétences, oui, pour des raisons de changement immédiat, de trajectoire professionnelle, répondre à des besoins d'inaptitude, répondre à une envie profonde de changer de conditions de travail, naturellement. Mais on peut faire aussi un bilan de compétences en mode préventif, en mode je gère ma carrière, je sécurise mon parcours professionnel, j'analyse mon champ de compétences opérationnelles, transversales, j'ai une cartographie de mon profil qui vont me permettre de gagner, en autonomie dans mes choix futurs, de me repositionner en interne dans mon entreprise ou en externe. Moi, je trouve, en tant que professionnel du bilan de compétences, qu'on utilise le bilan de compétences que pour la reconversion ou l'évolution professionnelle, mais on peut, c'est une prestation qui est très très utile, et là je fais un clin d'œil aux entreprises, qui est très très utile pour être un instrument de gestion des carrières et faire évoluer aussi les personnes en interne ou dans une grande entreprise, dans différents services, différentes structures de l'entreprise. Donc ça, c'est très intéressant. Donc le bilan de compétences, il faut le démystifier. C'est pas qu'un outil de reconversion professionnelle. Oui. La voilure peut aller jusque-là, mais il peut être aussi utilisé et en mode préventif, en mode prévention, en termes de gestion de carrière.
Et pour les entreprises, ça peut être un outil à disposition de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ?
Moi, je suis persuadé depuis de nombreuses années que c'est un outil méconnu par l'entreprise et qui mérite d'être valorisé, connu, reconnu. Et je me tiens à la disposition de toutes les entreprises, tous les RH qui auraient besoin d'avoir des précisions sur le bilan de compétences. Voilà. Ce qu'on peut constater, c'est qu'en France, on fait souvent des bilans de compétences un petit peu à marche forcée, oui. Parce que il y a un horizon un petit peu sombre pour les salariés, donc ils décident de faire des bilans de compétences, ou un jour il y a un changement, une rupture, etc., avec leur employeur, et là on fait un bilan de compétences un petit peu, entre guillemets, dans l'urgence. Mais ne pas oublier que le bilan de compétences peut être aussi une prestation qui peut agir en prévention, et je fais ce métier-là non pas trouver des projets professionnels aux gens, c'est pour leur donner de l'autonomie, pour qu'ils soient beaucoup plus autonomes, beaucoup plus connaisseurs de la mécanique du travail, pour qu'ils puissent rechercher eux-mêmes des pistes, s'autogérer. Donc on leur transmet aussi dans le bilan de compétences des outils, des méthodes qu'ils pourront utiliser tout au long de leur vie pour gérer leur carrière professionnelle, interne, externe, etc. Le bilan de compétences n'est pas que je crée un projet, c'est aussi on vous donne des méthodes pour assurer un suivi de votre carrière et gagner en autonomie, gagner en liberté. En fait.
Très bien. Donc, le bilan de compétences pour gagner en liberté. Pour terminer sur cette première partie rapidement, Bruno Burguin, j'aimerais que vous nous donniez la différence entre le bilan de compétences et le conseil en évolution professionnelle. Parce que pour les deux, on a tendance à un peu à se mélanger les pinceaux. C'est pas la même chose.
Oui, alors le bilan de compétences est une prestation donc accessible sur le CPF, mais aussi dans le cadre bien sûr d'une demande de l'entreprise. Et la différence, elle est simple. Le CEP est un service, le bilan de compétences est une prestation complète, c'est-à-dire avec trois étapes, alors que le CEP, le premier niveau du CEP, c'est je réponds à une question d'un salarié qui a une question de gestion de carrière, une question de formation. Il veut appuyer un projet qu'il a déjà un petit peu réfléchi. Il a entendu parler du démission reconversion. Il veut en savoir plus. Il veut qu'on l'aide dans ce dispositif-là. Donc, est un service d'abord en premier niveau d'information et d'aide et de soutien à la construction du projet.
Voilà. D'accord. Ok. Donc deux choses bien différentes. Merci pour ces précisions, Bruno Burguin. Je vous propose de marquer une pause musicale avant de nous retrouver sur la deuxième partie de cette émission. Que souhaitez-vous écouter, Bruno ?
Alors, depuis très jeune, je suis un fan d'Elton John, donc j'ai su qu'on pouvait passer des disques chez vous. Je voudrais qu'on écoute une chanson d'Elton John, donc des années 70, sa grande période où il a fait beaucoup de tubes. Une chanson connue et à la fois méconnue qui est revenue sur un petit peu à l'écoute ces derniers temps. C'est Teeny Dancer.
Eh bien, on va l'écouter et on se retrouve juste après.
Eh bien, je suis assis, j'écoute.
Merci.
Les rendez-vous de l'économie du territoire. Retour dans un instant. Dancing in the les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h. La suite.
Nous sommes de retour dans les rendez-vous de l'économie du territoire. Rendez-vous consacré aujourd'hui au CIBC de la Nièvre et son directeur Bruno Burguin. Donc le CIBC, le Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences. Nous avons, Bruno, fait le point tout à l'heure sur les missions, sur les publics accueillis, sur l'équipe compose le CIBC de la Nièvre. Dans cette partie, maintenant, nous allons plus parler de l'actualité. Alors, ça va nous changer un petit peu des actualités que l'on a l'habitude d'évoquer avec nos invités chefs d'entreprise qui sont plus liés aux crises qui se succèdent. Moi, j'aimerais que vous puissiez nous parler justement des événements sur lesquels on va pouvoir vous retrouver peut-être dans les prochaines semaines.
Ça tombe bien, donc vous allez pouvoir nous retrouver toute une semaine lors de la Foire Exposition de Nevers du 9 au 17 mars prochain. Donc nous aurons un stand et nous accueillerons tous les publics, aussi bien les demandeurs d'emploi que les salariés qui veulent s'informer sur les dispositifs d'orientation professionnelle et naturellement les entreprises qui souhaitent nous faire une visite, elles sont les bienvenues.
Elles sont les bienvenues.
Elles seront invitées. On va faire une opération à partir de nos fichiers sur l'ensemble des DRH locaux pour faire un relais de notre présence sur cette foire.
D'accord. Et puis, si on reste toujours dans les événements à venir, j'ai cru comprendre qu'il y avait des conviviales.
Exactement, donc nous avons mis en place avec notre chargé de communication au sein du CIBC, Angéline Martin, les conviviales du CIBC, où nous allons accueillir de façon informelle, un peu impromptue, légèrement impromptue, hein, c'est organisé quand même, hein, les entreprises, mais aussi les salariés, c'est ça les conviviales, les salariés, les demandeurs d'emploi qui ont bénéficié des accompagnements en bilan de compétences, en CEP, en point relais conseil VAE. Ce sont les fins de journée, les conviviales de tous ceux qui nous ont fait confiance dans un accompagnement. Pas que les entreprises, mais aussi les salariés, les demandeurs d'emploi.
D'accord. Alors, souvent, dans cette émission, quand on parle de l'actualité et qu'on parle justement des problématiques de recrutement, beaucoup de chefs d'entreprise nous disent qu'il y a eu un avant et un après Covid, avec des attentes différentes, un repositionnement de la valeur travail et notamment beaucoup de difficultés qui sont liées au fait de donner du sens à son travail. De la volonté aussi des salariés d'avoir plus de temps en télétravail. Est-ce que, au niveau de votre activité, vous avez senti ce changement dans le rapport des Français au travail ? Est-ce que ça s'est ressenti dans les demandes de prestations, quelles qu'elles soient ?
En post-Covid, se sont dessinées des tendances. On a tous plongé dans le chaudron du télétravail. Il y en a qui ont expérimenté sur le fait, et d'autres qui y ont pris goût, d'autres moins.
Ça n'a pas été heureux pour tout le monde. Hein.
Quand on regarde les statistiques nationales, semblerait-il, il y aurait quand même un retour, une observation du télétravail qui ne serait pas aussi plébiscité par les salariés que ça.
Bon. D'accord.
Maintenant, il y a des le télétravail, c'est, je répète toujours inlassablement, que c'est pas j'apporte un dossier à la maison et je le traite et puis voilà, c'est je m'installe à la maison pour une période X, avec une organisation qui est proche de celle du travail au quotidien, donc ça doit se contractualiser, ça doit être construit, être réfléchi entre l'employeur et naturellement le salarié. Mais attention, on a tendance à Et les salariés, moi je le constate, hein, vont se dire bah oui, je vais télétravailler, j'apporte des dossiers à la maison et aujourd'hui je vais.
C'est pas ça.
Voilà. Voilà, c'est pas du tout ça. Et tous les chefs d'entreprise, des PME, PMI ou de plus grandes entreprises, peuvent, et les DRH peuvent en témoigner. Ils expliquent inlassablement que s'il faut vraiment que ça se contractualise, que ça soit organisé avec une activité, mais une activité aussi qui n'échappe pas au contrôle. Voilà.
Donc, c'est toute la responsabilité de l'employeur aussi.
Voilà. Il y a la responsabilité de l'employeur, des partenaires sociaux qui planchent tous sur ces sujets-là, pour certains apportent des solutions concrètes. Voilà. Mais il faut quand même enlever de l'esprit aux salariés qui souhaitent mettre en place le télétravail que c'est j'apporte un dossier à la maison de temps en temps.
Voilà. Et pour certains, c'est j'ai une liberté de travailler quand je le souhaite. Alors, c'est aussi ça qui a été source, on va dire, de difficultés entre les employeurs et les employés. C'est-à-dire que, vous le disiez très bien, ça se contractualise, ça se prépare et on est vraiment dans une relation de travail qui est délocalisée, finalement, au domicile du salarié. Alors que pour le salarié, c'est pas forcément vu de cette manière-là. Est-ce que c'est pas ça, cette source d'incompréhension ?
Alors, source d'incompréhension, oui, mais des fois, il est possible que les salariés, pour certains, idéalisent le télétravail, par exemple. Donc, ils se fassent une idée du télétravail dans son organisation et ils pensent qu'ils ont les potentiels, les capacités à être à distance, mais même aussi à peut-être supporter la solitude en milieu privé. Mais c'est devenu un milieu professionnel, donc faire le distinguo entre les deux, le quand je m'arrête, le quand je commence, la gestion des pauses. Donc il y a beaucoup de gens qui idéalisent, donc je dirais même fantasme, hein, le télétravail, mais qui s'aperçoivent, j'ai pu accompagner des personnes qui ont fait pas mal de télétravail et puis qui sont revenus en milieu professionnel, parce que échanger plus facilement avec les collègues, c'est quand même important. Ils se sont aperçus en cheminant que c'était pas une erreur qu'ils avaient faite, c'était une expérimentation, mais qui n'était pas concluante tant sur le plan de leur efficacité au travail, mais qui n'était pas concluante non plus sur leur aspiration, comment ils voient leur travail, les conditions de travail et leur capacité à gérer une relation. Ils se retrouvaient un peu isolés chez eux, un peu paumés. Voilà. Donc beaucoup de salariés ont rétropédalé, sont revenus dans l'entreprise et ont réduit leur voilure de télétravail pour revenir dans l'entreprise, pour revenir dans ce contact salarié, d'échanger, d'aller voir, j'ai un document, je monte à la compta, je vais voir la compta, je vais voir la logistique, je descends sur le quai, tout ça pour mettre à jour des papiers, et de chez moi, tout ce rapport du travail concret est moins fluide, c'est ça, oui, tout à fait.
Et il y a du lien qui manque finalement.
Et les gens s'aperçoivent qu'ils ont en fait, on est des gens, on est l'humain est fait pour rentrer en mode relationnel.
Non, mais c'est important qu'on puisse avoir votre regard sur cette question qui revient souvent dans l'émission, parmi les difficultés que rencontrent les entreprises sur cette compréhension différente ou cette attente différente du télétravail qu'on a mis un peu à toutes les sauces. Alors, il faut bien dire que avec le premier confinement, tout le monde s'est retrouvé plus ou moins en télétravail de façon forcée et non préparée. Donc, forcément, ça n'a pas aidé à cette bonne interprétation des choses. Mais c'était bien de pouvoir le redire. Et je trouve que c'est plutôt rassurant pour nos auditeurs qui sont chefs d'entreprise et qui déploraient justement le fait d'avoir des difficultés à trouver des salariés en présentiel. Visiblement, c'est en train de changer et les gens qui ont expérimenté le télétravail se rendent compte aussi de ses limites en termes d'efficacité et de lien social.
Oui, et puis ce qui est représenté souvent par les médias, hein, donc c'est le télétravail idéalisé, hein, vous êtes avec votre portable, donc vous êtes cadre sup, vous êtes avec votre portable face à la mer, oui, sur une terrasse, etc., avec un jus de fruits, et puis vous vendez des tas de trucs dans le monde entier, le télétravail, donc il a été idéalisé un peu comme ça, le télétravail, non, c'est pas pour les employés, même les cadres de PME, PMI, hein, c'est pas idéalisé.
Non, ça ressemble
à
moins,
donc
ça.
On a fait beaucoup aussi de battage médiatique autour de cette sorte de liberté. Voilà. Donc, et puis bon, toujours des images liées aux affaires. Je peux traiter des dossiers, mais ça c'est une petite partie des salariés.
Hein. Oui, il y a aussi beaucoup de postes qui nécessitent qu'on soit en présentiel et qui sont pas du tout possibles en télétravail. Je vous propose que nous marquions, Bruno Burguin, une deuxième pause avant de passer à la troisième partie qui vous sera plus personnelle. Vous aimeriez que nous écoutions quoi ?
Alors j'ai hésité, puis j'hésite plus. J'aimerais bien qu'on écoute France Gall et une chanson de Michel Berger interprétée par France Gall qui est Cézanne Pain.
Très bien, on se retrouve dans quelques instants.
Le rendez-vous de l'économie du territoire, retour dans un instant.
Silence les grillons sur les branches immobiles, les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline, c'est le parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. César
les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h, les rendez-vous de l'économie du territoire. Samedi, 13h. La suite.
Nous voici de retour dans les rendez-vous de l'économie du territoire consacrés cette semaine au CIBC de la Nièvre, le centre interinstitutionnel de bilan de compétences, et à son directeur Bruno Burguin. Bruno, vous êtes venu nous présenter les activités, les actualités du CIBC. J'aimerais que dans cette dernière partie d'émission, vous nous présentiez votre parcours, parce que me semble-t-il, vous nous avez expliqué en tout début d'émission que ce qui était très important, c'était que les intervenants du CIBC soient passés, eux aussi, à un moment donné, par cette envie de changement et une reconversion. Est-ce que c'est le cas pour vous ?
Eh bien, je m'applique cette règle-là.
Il me semblait aussi. Règle, voilà.
Oui, parce qu'il y a encore 15 ans, je n'avais pas ce métier-là. C'est suite à une... on parlait tout à l'heure de sens au travail. Dans l'ancien secteur d'activité dans lequel j'étais, une grande compagnie pétrolière, dans le domaine industrie pétrolière, distribution de produits, en tant que cadre commercial, je ne trouvais plus de sens à ce que je faisais, hein, donc j'ai décidé de me prendre en main. Donc j'ai fait un bilan de compétences à l'époque, et puis qui m'a orienté vers les métiers donc de la formation dans un premier temps.
D'accord.
Puis j'ai fait un parcours de formateur où j'ai travaillé pour plusieurs types de structures, et par la suite j'ai rebifurqué, j'ai pris un petit virage et je suis allé dans l'orientation professionnelle, et les CIBC à partir de là m'ont accueilli, notamment le CIBC Centre Val-de-Loire à Bourges, où j'ai tenu l'antenne de Vierzon pendant un certain temps, et j'étais un petit peu le couteau suisse. Je m'occupais de VAE, de bilan de compétences, je m'occupais donc de relations avec l'entreprise aussi, de développer le secteur de ce nord du Cher jusqu'à Orléans d'ailleurs, et puis le CIBC de la Nièvre m'a accueilli, donc je suis rentré en tant que consultant, et puis me voici au poste de directeur. Donc j'ai fait un petit parcours. Après, l'avenir reste ouvert avec la petite ligne droite que j'ai à parcourir.
D'accord.
Avant de passer à la retraite.
Alors, question justement, on va repartir un peu en arrière, même beaucoup en arrière. Quand vous étiez petit, Bruno, et quand vous questionnez sur ce que vous voudriez faire quand vous seriez grand, vous répondiez quoi ?
Alors, je voulais être comédien, acteur de cinéma. Enfin voilà. Ça ne s'est pas produit. Mais néanmoins, c'était un rêve d'enfant. Comédien, acteur, monter sur scène, voilà, faire du cinéma. Alors je suis un passionné de cinéma, donc ça s'est traduit autrement.
Oui.
Voilà. Mais voilà, donc c'était mon rêve de petit garçon.
D'accord. Non, mais c'est toujours intéressant de savoir si les rêves d'enfant, quel impact ils ont eu en fait dans les choix d'adultes. Parce que parfois on se dit, bon, on a suivi son rêve d'enfant, pour certains, pour d'autres, pas du tout. Mais il reste toujours quelque chose, finalement, qui a... Donc, pour vous, c'est la passion du cinéma ?
Ah, c'est la passion du cinéma, oui. Je suis intéressable sur le sujet. J'ai beaucoup de documentation chez moi. Et peut-être dans une troisième carrière, peut-être être critique de cinéma, journaliste...
Jamais cinéma, complètement etc. parti, ce
volet-là. Non. Je veux faire une retraite un de ces quatre matins intéressante, avec des activités culturelles et qui sont en lien avec mes connaissances, parce qu'en plus ma connaissance du cinéma, sans vouloir me vanter, est quand même assez importante.
D'accord, donc une véritable passion.
Tout à fait.
Et au niveau, on va revenir quand même au niveau professionnel, puisqu'il reste encore quelques années avant la retraite. Vous imaginez comment, justement, les évolutions de notre monde du travail et de votre secteur d'activité, est-ce que vous voyez arriver de grands changements, vous anticipez de grands changements, ou est-ce qu'on est plutôt sur des ajustements ?
Alors, vous savez, dans le domaine des RH, il y a des modes, hein, on en parlait tout à l'heure, il y a des modes, des tendances, et on se polarise sur ces modes, sur ces tendances. Là, il y a quand même quelque chose qui se dessine, on a entendu parler dans les médias, les RH en parlent aussi, c'est la semaine
de 4 jours,
qui va nécessairement, si on travaille dessus, si on l'organise, si on tire des conclusions, je sais pas, juridiques, légales, enfin, qu'on met ça en route, je pense qu'on va s'acheminer peut-être vers le travail, peut-être comme le font les Australiens, le travail à la carte. Mm-hmm. Donc on remplit un quota d'heures, le salarié peut s'organiser dans son temps de travail. Bon, on n'y est pas encore.
Ça va nécessiter quelques ajustements
il faut aussi qu'une société soit en corrélation avec cette pratique, hein, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde, si on décide de faire la semaine de 4 jours, il faut adapter quand même aussi la communauté économique, sociale, à tout ça. Et puis pareil, si demain ou après-demain ou dans quelques années on va vers le travail à la carte, il faut que nos structures économiques soient adaptées à cela.
C'est ça.
Que la demande aussi, on a des clients, que la demande elle soit aussi phase, etc.
Ce qui peut paraître un peu surprenant aussi, c'est que on a d'un côté des clients qui ont besoin de pouvoir accéder à de nombreux services à tout moment de la semaine, voire de la journée. Et en parallèle, on est en train d'organiser le travail pour qu'il se fasse sur un temps plus réduit. Donc ça veut dire qu'il y a quand même besoin de mettre en corrélation les choses pour que ça se passe bien.
Alors d'autant plus qu'on est dans une évolution de la société où on veut tout rapidement, où le niveau de patience est quand même un petit peu réduit. On a besoin de beaucoup de services à domicile. Donc il va falloir adapter toutes ces réflexions. Et puis j'ai toujours l'habitude de dire, attention, nous-mêmes tous, au quotidien, on fabrique le travail des autres. C'est-à-dire qu'avec mes exigences d'avoir un colis envoyé par une grande entreprise, de l'avoir livré avant de l'avoir commandé, ça va impacter la chaîne, on va parler de risques psychosociaux, on va parler de tas de choses, mais ça va impacter le travail des autres et ça va changer. Donc nos propres notre consommation change le travail des autres. Ça, je ne suis pas sûr qu'on s'en soit bien aperçu.
Oui, mais c'est pour ça que je disais, il y a quand même une problématique entre les attentes des clients, des consommateurs, quel que soit le secteur d'activité finalement, où il y a beaucoup plus d'exigences, beaucoup de besoins de réponses quasi immédiates. Alors oui, aujourd'hui, on utilise beaucoup plus les technologies pour permettre de faciliter certaines tâches, mais n'empêche que ces technologies créent des contraintes pour ceux qui vont devoir à un moment donné exécuter les tâches qui vont être nécessaires pour la livraison, pour le fait que l'on ait un service à domicile. Et là, il faut de l'humain et il faut pouvoir organiser les plannings. C'est déjà pas si simple que ça à organiser sur une semaine classique. S'il faut prendre en compte toujours cette restriction à 4 jours, je pense que pour ceux qui font les plannings, ça va devenir un vrai sport.
Il va falloir équilibrer tout ça. Sur une système, il faut réfléchir, il faut l'organiser calmement et arrêter de suivre ces modes. Il faut, si c'est intéressant, on se penche sur la question, on échafaude une stratégie, on met ça en place. Et puis, je dirais aussi, on impacte le travail des autres, chacun impacte le travail des autres, mais aussi les risques psychosociaux des autres, c'est-à-dire que notre façon de consommer, notre façon de vouloir les choses rapidement, d'avoir des comportements aussi des fois un petit peu plus abrupts, vous créez au quotidien des risques psychosociaux Alors je pense à nos hôtesses de caisse, à nos hôtesses de caisse. Hein, je pense à nos infirmières, à nos soignants aussi, qui ben eux n'ont pas vu de changement considérable par rapport à ces nouveaux comportements. Oui. Donc il y a aussi hein, attention, on est l'être humain, enfin l'individuel, l'individualiste, l'être humain unique et concentré aime beaucoup ses propres RPS et puis il veut vivre à l'équilibre. Par contre, dans ses comportements avec l'autre, c'est pas toujours
il pense pas.
Donc moi, j'invite les gens aussi à être. Alors c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais c'est aussi en tant que salarié de veiller au bien-être, aux risques psychosociaux de ne serait-ce que de son voisin dans l'entreprise.
Prendre soin les uns des autres finalement.
Prendre soin les uns des autres dans l'entreprise, être en mode vigilance, être en mode
bienveillance,
exactement. Ça, c'est important. Déjà, si on arrive à le faire dans notre microcosme professionnel, eh ben, ça ferait avancer davantage les soins. Et on pourrait prendre des sujets un petit peu chauds, qui demandent de la réflexion. On pourrait s'y atteler de façon sereine. Ça manque un peu de sérénité.
Oui, parce que ce sont des effets de mode, vous le disiez tout à l'heure. Dans les effets qui ne sont pas des effets de mode, mais par contre une tendance que l'on sent pointer quand même plus qu'un peu, c'est la nécessité pour l'État de faire des économies. On a vu qu'on avait des économies à réaliser sur les réformes des retraites, sur aussi la sécurité sociale, et on voit qu'il y a un autre volet qui va être impacté sur cette année, c'est à la fois le CPF, le compte professionnel personnel de formation, mais aussi on voit bien qu'il va y avoir un désengagement sur les aides pour les contrats en alternance. Pour l'instant, les décrets ne sont pas sortis encore. On parle justement du reste à charge pour les salariés qui voudront faire une formation en utilisant leur CPF ou un bilan de compétences. Votre regard sur cette tendance aussi?
Alors après moi j'ai une casquette aussi au CIBC de la Nièvre comme beaucoup de responsables de structures qui sont donc affiliés au CPF hein, qui mobilise le CPF. Effectivement ça risque d'avoir un impact non négligeable sur l'utilisation du CPF pour faire de la formation, pour faire du bilan de compétences, de l'accompagnement VAE, ça risque d'avoir un impact que je n'ai pas évalué à ce stade.
Mais c'est peut-être encore trop tôt.
La seule chose que je pourrais dire, c'est comme cette trajectoire va être, de toute façon, on ne va pas faire du rétropédalage, ça va être appliqué. Donc moi, je pense qu'il faut que les personnes qui ont envie de faire une formation, faire un bilan de compétences, s'y prennent très rapidement avant peut-être le mois d'avril pour commander ce type de prestations. Parce que effectivement, ils auront un reste à charge qui, je crois, va se situer aux alentours de 10% du montant de la formation annoncée.
C'est ce dont il est question, on n'a pas encore la certitude.
Voilà, donc à ce stade, si vous commandez, vous avez un CPF au taquet, vous commandez une formation, je ne sais pas moi, à 3000 euros, vous aurez un reste à charge de 300. Alors après on peut se dire je vais pas faire le larmoyant hein, c'est pas du tout ça, mais on peut se dire pour quelqu'un qui est en cadre sup, qui décide de mobiliser, qui a un salaire confortable, mais un employé demain, je reviens aux hôtesses de caisse ou aux employés de libre service ou dans d'autres domaines d'activité dans l'industrie, etc., des employés, des ouvriers, leur demander pour faire un bilan de compétences, une formation, 10% d'une somme qui va avoisiner quelques centaines d'euros, ça peut être
c'est
quand même
plus conséquent de leur revenu,
voilà.
D'accord. Ok. Merci en tout cas pour ce point. C'est important d'avoir votre regard CIBC sur ce projet, en tout cas qui devrait voir le jour dans les prochaines semaines. Pour terminer cette émission, Bruno Burguin, j'aimerais juste que vous nous disiez quel est votre rêve. J'aime bien qu'on termine sur cette question-là.
Donc, un rêve que je n'ai pas pu réaliser, cet acteur de cinéma, oui. ou comédien, enfin bon,
donc,
bref.
Alors, de cinéma, ouais, du coup, voilà,
peut-être.
À venir.
Par contre, je vais réduire. La deuxième possibilité, donc beaucoup plus accessible, hein, vous verrez. Donc, mon rêve, voilà, qui me revient de temps à autre, c'est de me retirer dans le Luberon, qui est ma terre natale. Je suis né à Avignon et j'ai pas mal de crapahuté dans le Luberon. Donc, c'est tout simple, hein, c'est de rejoindre définitivement le Luberon. Voilà.
D'accord.
Alors pour quelle activité faire peut-être du pagnol dans une foire, faire des textes de pagnol, je sais pas, c'est comme ça je pourrais joindre la géographie et puis la culture locale.
On va monter sur scène là en plus.
Peut-être. Hein, peut-être.
D'accord. Merci Bruno Burguin d'avoir été notre invité de cette semaine. Je rappelle que vous êtes le directeur du CIBC de la Nièvre. Merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Merci, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Mardi, 19h. Les rendez-vous de l'économie du territoire.